Bonjour à tous. Comme un jeudi entre silence et utopie, dans la deuxième partie de la Grande Table, faut-il déplorer le silence des intellectuels ou savoir l'écouter? Dans le cadre du projet Silence du Théâtre National de Chaillot, nous recevons le philosophe Jean-Luc Nancy qui participera à ce projet et est par ailleurs l'auteur de Que faire aux éditions Galilée. On le retrouvera après le journal d'Antoine Mercier à partir de 12h55. Mais d'abord, cap à l'Est et sur la scène du Théâtre de l'Europe où a débuté hier soir Des arbres à abattre d'après Thomas Bernard. Le festival d'automne lui consacre un portrait, rencontre, trois pièces à l'honneur. Le metteur en scène polonais Christian Lupa et son bonheur créatif sont nos invités jusqu'à midi et demi. La Grande Table se tweet, se like et se télécharge sur franceculture.fr.
La Grande Table. Olivia Jesbert.
Un théâtre transgressif mais jamais agressif, une percée dans les frontières de l'individualité, metteur en scène et théoricien, il creuse la dimension éthique dans l'art et transmet passion et réflexion à ses étudiants de l'École nationale du théâtre Ludwig Solski de Cracovie. Il a adapté des auteurs tels que Musil, Dostoïevski, Tchekhov, Rilke ou encore Thomas Bernard, dont il a monté trois pièces actuellement présentées dans le cadre du festival d'automne. Des arbres à abattre à l'Odéon jusqu'au 11 décembre, Place des Héros à la Colline du 9 au 15, et déjeuner chez Wittgenstein. Ce sera aux Abbesses avec le Théâtre de la Ville du 13 au 18 décembre. Christian Lupa, bonjour. Et bonjour à votre voix française, Michel Lisowski. Bonjour à vous. Vous allez bien? Vous vous êtes couché tard hier soir?
Plus tôt, le spectacle se termine à minuit et demi. Après, il fallait encore réfléchir un peu. Et le sommeil arrive enfin.
Oh, ça s'appelle pas se coucher tard pour vous. Se coucher au milieu de la nuit, c'est se coucher plutôt tôt.
Tout à fait, car la nuit, c'est le meilleur moment pour penser.
Et quand vous dites que vous vous êtes couché après avoir réfléchi, après cette première représentation qui a eu lieu au théâtre de l'Odéon, celle des arbres à abattre, vous avez réfléchi à quoi après ?
Je réfléchissais sur les possibilités d'évolution de ce spectacle. Nous avons déjà voyagé à l'Est. Nous sommes revenus à Wrocław, où il y a eu deux représentations, mais pas dans notre vrai théâtre. Notre théâtre était repris par les autorités. Les autorités qui veulent avoir la culture pour elles-mêmes. Les comédiens se battent pour ce théâtre. C'est leur maison. Pour l'instant, ils ont l'impression de squatter. Ils ont eu donc deux représentations dont ils avaient très peur. Il y avait beaucoup de frénésie. Un public qui se comportait comme dans un rituel. Et maintenant, on se demande ce qu'on peut faire. On a plus de radicalité en ce moment, plus de liberté dans ce spectacle ailleurs. Maintenant, il y a ce moment parisien. Maintenant, nous sommes venus à l'ouest. Alors, comment utiliser cela? Comment continuer? J'ai écrit une lettre aux acteurs. Encore une lettre aux acteurs. Comme dans le livre que j'ai publié à Paris.
Vous êtes très remonté, en effet, Christian Lupa, contre le théâtre actuellement en Pologne, son état d'esprit, ses lieux, la mainmise aussi du pouvoir politique sur ces espaces de création et d'expression, sur cet espace que peut être le théâtre. Et vous êtes, vous, un metteur en scène itinérant depuis toujours Des arbres à abattre. Vous l'avez d'ailleurs monté en Pologne, présenté ensuite au Festival d'Avignon, il y a 2 ans. C'est pas une pièce que vous venez de créer. trois pièces de Thomas Bernhard dans le cadre de ce festival d'automne que vous montrez aujourd'hui. Thomas Bernhard, c'est un auteur qui vous suit depuis La Plâtrière en 92. Il est qui pour vous? Votre double? Un miroir? Ses obsessions? Son pessimisme? Pourquoi il vous rend fou, Thomas Bernhard?
Jego pessimisme est dla mnie.
Son pessimisme, comme vous dites,
énergiczny.
C'est quelque chose qui me donne beaucoup d'énergie.
Et pełen poczucia humoru.
En même temps, c'est rempli d'humour.
Pełen przekory.
Il y a beaucoup d'une certaine perversité.
Przewrotności. Uderzenia w własną pierś.
Et en même temps, il y a beaucoup de mea culpa là-dedans.
I z ogromną potrzebą życia.
Et il y a un grand besoin de vie.
Ten chory przez całe życie człowiek.
Cet homme qui était malade pendant toute sa vie.
Chce żyć.
Veut vivre.
Chce mieć sens życia.
Veut voir un sens à sa vie.
Choćby miał to wydrapać, że tak
powiem, même si cela devait être arraché à l'aide de ses ongles.
I z tego wszystkiego, co jest mu przeciwne.
L'extirper de tout ce qui constitue son adversité.
Walczy z kłamstwem naszej kultury.
Il lutte contre les mensonges de notre culture.
Z kłamstwem nas jako individuum.
Avec nos mensonges individuels.
Walczy z kłamstwem w sobie samym.
Il lutte aussi contre son mensonge à lui.
Bo przecież to kłamstwo jest nam jakby szczepione jako
car
chip jakiś kulturowy.
C'est comme si nous avions une sorte de puce qui nous incite au mensonge.
On chce to wyrwać.
Lui, il veut extirper tout cela.
Choćby, jakby powiedzieć, w tym momencie sam siebie rozdrapał.
Même si ça veut dire qu'il se déchire lui-même avec ses propres ongles.
Co jest wspaniałe.
Et c'est ça qui est merveilleux.
Et, jakby powiedzieć, on nie zna granic bezkompromisowości.
Il ne connaît, son absence de compromis ne connaît pas de frontières.
Et vous, Christiane Loupa, c'est de Thomas Bernhard dont vous nous parlez? Ou c'est un autoportrait que vous venez de faire?
Nie wiem, szczerze powiedziawszy.
Très sincèrement, je ne sais pas.
Ponieważ to się jakoś złączyło.
C'est en quelque sorte en moi.
Można sobie powiedzieć, od dawna z Thomasem Bernhardem jestem jak jakieś dwa połączone naczynia.
Que je me sens un peu comme des récipients liés.
Z cienką ścianką.
Avec une minuscule membrane.
W której przez Thomas którą Bernhard płyny wymieniają się osmotycznie.
Et il y a une sorte d'osmose qui se produit entre nous.
Ja się bardzo cieszę i jestem podniecony.
Je suis très content.
Tym festiwalem.
Le festival d'automne. Le mini-festival de Thomas Bernhard m'excite beaucoup.
Obserwanie z różnymi, powiedziałbym,
je pense que la possibilité d'approcher plusieurs de ses textes en même temps,
może działać bardzo ożywczo,
c'est quelque chose qui peut être très vivifiant.
Przez asociacje,
à travers des associations,
przyjedzie brat Thomasa Bernarda,
le frère de Thomas Bernhard va venir,
Peter Fabian.
Peter Fabian,
który jest również bardzo podniecony przez ten pobyt.
Qui a l'air aussi très excité par ce séjour.
Des arbres à abattre, c'est une peinture romanesque du milieu artistique bourgeois dans le Vienne des années 80, une veillée funèbre qui réunit quelques faux amis des artistes, avec Thomas Bernhard comme narrateur qui réfléchit aussi au sens de la création, ou plutôt qui la sabote, cette création, narrateur ironique, amer, lucide, bande-annonce en polonais, et sur scène, sachez que c'est surtitré en français.
Thomas.
Powiedziała, że jest szczęśliwa, że się z tego wyrwała, że się z tego, powiedziała, wyczołgała.
Thomas, słyszysz?
Wyczołgałam się z tego, z tej całej waszej sztuki.
Świat jest piękny, a ludzie dobrzy.
Poczekaj, 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 muszę wniknąć w to, czego nie rozumiem.
No, próbuj, Jenny.
Ostatecznie zrozumiałem, że Joanny nie da się uratować.
A skąd moglibyśmy przyjechać?
Przecież powinienem przypuścić, że w końcu któregoś dnia będę musiał spotkać Auersbergerów. Tak samo jak tych wszystkich odrzuconych przeze mnie ludzi, a z którymi teraz, jak się to mówi, nie chciałem mieć nic do czynienia.
Il règle ses comptes avec ces artistes qui l'ont fait rêver 30 ans plus tôt, Thomas Bernhard. Formidable Piotr Skiba en Thomas Bernhard en vrac quelques phrases glanées durant la représentation. Des rêves naissent les larmes. Ceux qu'on appelait artistes sont des coquilles vides. Ils n'ont réussi qu'à devenir des artistes provinciaux bardés de médailles. Ils font comme s'ils étaient devenus quelqu'un, mais ils sont personne. Des morts vivants de l'art. C'est raté, errant dans un cimetière d'oubli, noyé d'hypocrisie. Christiane Loupa, c'est une question qui vous taraude aussi. Comment devenir un artiste accompli?
Je remarquais ce que vous venez de dire, madame. On rencontre un groupe de bourgeois. Petits bourgeois, mais ils ne se voient pas tels quels. Ils pensent être tout à fait anti-bourgeois, car ils sont des artistes. Des artistes qui, à leur jeune âge, voulaient faire quelque chose d'extrême. Ils voulaient construire à nouveau le monde, se reconstruire eux-mêmes, faire un art que personne n'a fait avant eux. Ils n'ont même pas aperçu ce moment où le bourgeois est revenu en eux à travers toutes les petites affaires. Ils pensent les faire au profit de leur art. Donc je dois faire ceci, voir cela. Et puis au bout de quelque temps, on se rend compte que ce n'est pas du tout pour mon art, mais pour protéger mes fesses. Et à ce moment-là, nous revenons des bourgeois.
Oui,
ce danger nous guette tous. Et aussi dans Les arbres à couper, Thomas Bernhard le ressent de manière très forte lorsqu'il se regarde lui-même dans un miroir déformant. Car ce sont ses anciens amis qui sont ce miroir.
Triste peinture sociale de ces artistes devenus petits bourgeois, assez pathétiques, même si attachants, avec leur égo hypertrophié. Est-ce que vous, il vous reste aussi, Christiane Loupa, des arbres à abattre?
Oczywiście.
Bien sûr. C'est justement là que réside tout ce paradoxe. Que quand on commence à couper ces arbres, on y met de plus en plus de passion. Et après, il s'avère qu'il ne reste presque plus rien. Où sommes-nous, nous-mêmes? Oui, triste, peut-être. Mais je vous dirais que c'est peut-être moins triste lorsque nous en sommes pleinement conscients. Et lorsque ce glaive sera dirigé vers nous-mêmes. Trois points. Et on pourrait rêver que nos hommes politiques sachent le faire. Malheureusement, ils ne le savent pas du tout. Ils ne voient rien de cela. Si nos hommes politiques savaient lire Thomas Bernhard et ne pas rejeter le livre après avoir lu la première page, mais ce n'est pas possible. Après la première page, le livre leur tombera des mains.
Il y a un sous-titre à ce texte, Eine Erregung en allemand, qui a été traduit en français, une irritation. Mais tel que Thomas Bernhard le présente dans un entretien qu'il avait donné juste après l'écriture de cette prose, lui parle plutôt d'une excitation.
Oui, il parle de l'excitation. C'est peut-être difficilement traduisible vers le français. En allemand, il y a beaucoup de mots
valise, pourrait-on
Erigung.
Dire.
To jest rzeczywiście
Erigung to justement un de ces mots-là.
On mówi, że bez podniecenia nie jest możliwe w ogóle
Il pisanie. Dit lui-même que sans l'excitation, l'écriture n'est pas possible.
Że to jest, powiedziałbym, emocja, czy raczej stan ducha.
Donc j'appellerais cela de l'émotion ou bien un état d'esprit.
Który przychodzi przed pisaniem.
Qui vient avant l'écriture
qui umożliwia pisanie,
et qui rend possible cette écriture.
Ale również pisanie jest czynnością,
mais l'écriture elle-même, c'est
które,
aussi
jakby powiedzieć, pobudza jeszcze
une
bardziej,
occupation qui, à son tour,
podniecenie,
suscite plus de cette excitation.
To podniecenie staje się również, jakby powiedzieć, sposobem
et
widzenia.
À ce moment-là, toute cette excitation devient un mode de perception.
Rodzaj szkła,
une sorte de verre
przez które widzi się świat,
à travers lequel on regarde le monde
odarty od naszego kłamstwa,
de manière peut-être à ce que le mensonge qui l'accompagne inévitablement, le mensonge a priori, soit diminué.
W innej książce swojej,
dans un autre de ses livres,
wymazywaniu,
l'effacement,
w ten sposób, w podobny sposób traktuje przesadę.
Bernard aborde de la même manière l'exagération.
Bernard powiedział, jestem artystą przesady.
Il a dit lui-même, je suis un artiste
dopiero
de l'exagération.
Kiedy zaczynam przesadzać,
et lorsque je me mets à exagérer,
coś można w ogóle uchwycić.
On peut percevoir quelque chose.
Ponieważ w momencie, kiedy nie ma, jakby powiedzieć, na początku tej optyki
przesady, au moment où cette
exagération,
cette vue de l'exagération n'existe pas, au tout début,
wszystko jest homogeniczne i niewidzialne.
Tout est homogène, tout est invisible.
Et l'excitation pour vous, Christian Loupa, c'est probablement aussi ce goût pour les fictions romanesques, de passer de la prose, adapter de la prose, plutôt que des pièces déjà écrites, quelque part déjà mises en scène sur le papier, ce qui interroge pour vous régulièrement la question de cette adaptation. Qu'est-ce qu'une bonne adaptation? Est-ce que c'est une trahison? Le style de Thomas Bernhard, en tout cas, apparaît comme un casse-tête pour un dramaturge chez l'écrivain. Ce que l'on dit ne fait que voiler ce que l'on pense ou ce qu'on ignore. Alors, dites-vous, les silences, le ralentissement du temps, comment les mettre en scène? Comment les traduire et faire en sorte que le public s'approprie ce langage très particulier de Thomas Bernhard?
Widzowie przyjęli ten specyficzny język Bernarda.
Lubię powieści jako materię prima.
Oui, j'aime les romans comme matière de base pour le théâtre.
Bo nie są to gotowe projekty.
Justement parce que ce ne sont pas des projets théâtraux déjà faits.
Współcześni dramaturdzy, dramatopisarze,
les auteurs dramatiques contemporains,
bardziej koncentrują się na swoim projekcie,
se concentrent plus sur leur projet,
czyli na teatrze,
donc le théâtre lui-même,
niż na świecie, który chcą przedstawić,
plutôt que le monde qu'il représente.
No, oczywiście, jakby powiedzieć, powieści Thomasa Bernharda są szczególnie trudne. Bien
entendu, Thomas Bernhard, ce sont des romans particulièrement difficiles.
Bo wynika to z jego jakby skrajnej.
Cela vient de son option de subjectivité extrême,
jego optyki, jego stylu,
de sa vision, de son style.
A tutaj, w przypadku, na przykład,
et là, en ce qui concerne justement les arbres à couper,
mamy tym bardziej ciekawą sytuację,
la situation est d'autant plus intéressante que nous avons affaire avec un monde
dokładnie istniał,
qui a existé coś, réellement,
był jakimś gniazdem takim,
qui était une sorte de
nid
dans lequel
artista.
Thomas Bernhard est né. Je parle de sa
on
naissance en tant qu'artiste. Il doit beaucoup à ces gens.
Tej grupie Tonhof,
c'est le groupe Tonhof avec Maria Zal. C'est un groupe très fameux, un groupe d'artistes autrichiens d'une époque pas tellement révolue.
W trakcie pracy,
et au cours du travail, nous avons ressenti, je parle des acteurs, qu'ils peuvent s'opposer, entrer en polémique avec Thomas Bernhard au lieu de le reproduire.
Thomas Bernhard a le talent de rester seul, dit le narrateur sur scène. Pour vous, le théâtre, au contraire, est une expérience collective. À vos débuts, Christian Loupa, vous avez vécu en autarcie pendant 9 ans avec votre troupe dans le théâtre de Jelenia Góra, dans la Pologne des années 70. Nous étions une communauté sexuelle, amoureuse, mythique, mystique. Et vous avez cette phrase plus qu'appétissante quand vous en parlez. Les gens plongés dans l'extase vivent sous l'aile d'un ange. Le théâtre comme un laboratoire, un lieu d'expérimentation et de recherche. Clin d'œil à Tadeusz Kantor en répétition à Avignon en 1990 avec ses comédiens.
Je n'ai pas de vision. C'est mon secret. Il faut attendre. Je n'ai pas confiance aux hommes, aux artistes qui ont les plans précis et qui suivent le plan. Mais vous savez, il faut... Vous faites comme ça ou comme ça? Comme ça. Nous travaillerons au sujet d'une activité tout à fait réelle. Des apprendre. Oui.
Le metteur en scène polonais Tadeusz Kantor, lors d'une répétition de Haut, Douce Nuit à Avignon en 1990, il est décédé la même année. À sa troupe, il dit dans ce moment « Je n'ai pas de vision, je n'ai pas confiance dans les artistes qui ont des plans précis ». Il voulait que ses comédiens désapprennent plutôt qu'ils suivent à la lettre la méthode du maître. « Ni Dieu, ni maître ». Vous n'êtes pas non plus un metteur en scène qui se prend pour un gourou. Vous voulez pas faire de vos comédiens, Christiane Loupa, des disciples. Vous êtes un peu comme lui. Vous acceptez l'idée d'avoir quand même marqué des générations de comédiens et de metteurs en scène sans vouloir incarner ce rôle, cet habit du metteur en scène gourou.
J'écoutais la voix de Kantor en français. Cela le rend plus doux, la langue française. Ah.
Il n'était pas si doux.
Alors, je pense que c'était une des premières représentations. Par la suite, je pense que le langage serait devenu plus acéré. Non, je ne veux pas avoir de disciples. En tout cas, je ne veux pas qu'il reste mes disciples.
Nie chce być uczniem.
Un artiste ne veut pas être un disciple.
On chce być kimś, on chce być sobą, bardzo
il
po swojemu.
Veut être quelqu'un tout seul, à lui-même.
Nigdy nie byłem pokornym uczniem.
Et moi, je n'ai jamais été un disciple obéissant.
I właśnie jakby powiedzieć, polemika to jest...
Et justement, cet esprit polémique,
fantastyczne narzędzie,
c'est un outil fantastique.
W jakim korzysta się z mistrzów.
On peut ainsi profiter de ses maîtres.
Zawsze chcę swoich uczniów do tego zachęcić.
Je voudrais toujours inciter mes élèves, mes disciples à le faire.
Żeby ze mną walczyli i polemizowali.
Qu'ils se battent avec moi, qu'ils s'opposent à moi.
Pas de disciples, mais vous avez vos maîtres, vos références, et parmi eux, Andy Warhol. Cette rencontre, dites-vous, a changé ma vie. On l'écoute.
Comment faites-vous vos portraits? Quelle est votre technique?
J'utilise cette invention géniale d'Edwin H. Land, le Polaroid. Le modèle de Big Shot, pour être exact. Il n'est conçu que pour faire des portraits. Je n'ai pas encore appris à faire des photos en pied. J'ai déjà essayé, mais sans grand résultat. Et donc, cet appareil ne prend que les visages et on dirait que, je ne sais pas, cet appareil fait que les visages ont l'air exactement comme il faut. Au final, on obtient comme une photo de passeport, mais avec un rendu vraiment excellent.
Vous prenez une seule photo ou bien plusieurs?
Non, j'en prends au moins 200, peut-être même plus.
Et ensuite, vous faites votre choix.
Oui, ensuite, je choisis et parfois, j'utilise la moitié d'une photo que je complète avec une autre moitié.
Et que faites-vous une fois que vous avez cette photo?
Généralement, la photo est en couleur, donc je fais faire une conversion en noir et blanc et ensuite, j'agrandis le tirage. Je suis coincé par le format, je ne fais que des images en 40-40. Donc, j'agrandis l'image dans cette limite.
Et ensuite?
Et ensuite, j'imprime la photo sur une toile, je peins par-dessus et j'essaie de trouver les couleurs idéales. Des fois, c'est difficile. Des fois, c'est plus facile.
Et comment savez-vous que vous avez utilisé les bonnes couleurs?
Je ne sais pas, c'est une fois fini que vous savez si vous avez obtenu les bonnes couleurs.
Vous ne cherchez pas du tout à faire quelque chose de réaliste, n'est-ce pas?
Oh mon Dieu, non, je ne sais pas faire ça.
L'art de l'image, l'art de la couleur, Christiane Loupa, la voix d'Andy Warhol.
Wzruszające.
Très émouvant.
Andy Warhol, no jakby powiedzieć, nie jest moim mistrzem totalnym.
On ne peut pas dire d'Andy Warhol qu'il était mon maître totalement.
Znalazłem go jakoś przypadkowo.
Je l'ai trouvé un peu par hasard.
Po wielu latach zapomnienia.
Après de nombreuses années d'oubli.
Znalazłem jakieś pokrewieństwa.
Je trouvais une certaine familiarité.
Przede wszystkim, jakby powiedzieć, jego ukochanie przypadku.
C'est le fait qu'il adorait le hasard.
I instynkt, jakby to powiedzieć, żeglowanie.
Une sorte d'instinct de voguer à travers ce hasard.
Warhol powiedział, jestem powierzchnią.
Warhol avait dit, je suis la surface.
To mnie to, jakby powiedzieć, uratowało przed głębinami Junga.
C'est ce qui m'a sauvé des profondeurs de Jung.
Jung, mistrz głębi.
Jung, le maître des profondeurs.
Warhol, mistrz powierzchni.
Et Warhol, le maître des surfaces.
Trzeba szukać przeciwieństw.
Donc il faut trouver des choses qui s'opposent.
Et Christiane Loupa, le maître des utopies, à lire Utopia, lettre aux acteurs. Le livre vient de paraître chez Actes Sud. On y retrouve tout votre processus créatif, votre manière de penser le théâtre dont vous avez toujours dit qu'il est le laboratoire des expressions humaines. Un grand merci à vous, Christiane Loupa.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
France Culture. La Grande Table. Olivia Jesbert.
Comme tous les jeudis, nous retrouvons maintenant notre partenaire du Parisien Magazine, François V. Bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous.
Une exposition sur un peintre étonnant et deux séries sur la drogue. On commence par l'exposition et Frédéric Bazille.
Oui, c'est un peintre qui a disparu prématurément à l'aube de l'impressionnisme. C'est un artiste méconnu qui a trouvé la mort au champ d'honneur alors qu'il se battait contre les Prussiens en 1870. Il n'avait pas 29 ans. À présent, il a les honneurs du musée d'Orsay à Paris. Juste retour des choses, comme le prouve cet autoportrait à la palette datant de 1865 qui ouvre l'exposition. Ce méridional monté à Paris vient d'abandonner ses études de médecine. Il pose de trois quarts, plein d'ambition, fier de son nouveau statut de peintre. La suite de ses œuvres atteste de sa maturité précoce. Il peint ses ateliers successifs et noue des amitiés fortes avec Claude Monet, son colocataire, avec Sisley et Renoir. Ils sont quatre amis pour la vie. Bazille, le plus fortuné, a su très vite se faire apprécier. Ses paysages du Sud témoigne d'un tempérament affirmé. Il excelle dans les portraits de groupe en plein air, comme l'atteste sa fameuse réunion de famille, considérée comme son chef-d'œuvre. Quant à ses nus de femmes, mais aussi d'hommes, il s'avère d'une audace certaine pour l'époque. Frédéric Bazille, c'était bien l'un des artistes les plus prometteurs de sa génération. Voilà donc une belle redécouverte.
Et c'est votre premier conseil de sortie pour le week-end pour les Parisiens. Cette semaine, vous êtes aussi intéressé à deux séries traitant de la drogue, et ça, on peut le voir partout en France.
Oui, Olivia, la première s'intitule tout simplement Cannabis et sera diffusée la semaine prochaine sur Arte. Son principe, c'est de nous faire plonger dans le trafic de drogue direction la banlieue parisienne. C'est une jeune réalisatrice, Lucie Borloteau, qui est aux manettes de cette série, qui accroche par son aspect documentaire. Et puis Cannabis comporte une dernière spécificité. La police n'y joue aucun rôle. Tout se passe en dehors de sa présence.
Enfin, vous vouliez nous inciter à regarder The
Knick.
Wow.
En effet, Olivia, cette formidable série américaine réalisée par Steven Soderbergh est actuellement diffusée sur France O. Il faut profiter de l'aubaine. Sa grande originalité est de nous faire découvrir la vie d'un grand hôpital de New York en 1900. C'est une série qui a obtenu un joli succès critique et amplement mérité.
Un grand merci à vous, François V. Tous vos conseils sont à retrouver dans le Parisien Magazine qui paraît demain.